Santé, santé mentale, bien-être émotionnel et histoires humaines. Les mots comptaient, un podcast où l'on soigne tout simplement ce que l'on tait. Bonjour à tous, vous qui êtes à l'écoute de la radio Jeddah. Je suis Délivrance T et c'est pour moi un plaisir de vous souhaiter la bienvenue dans ce nouveau numéro du podcast Les mots comptaient. Ici, nous parlons de santé, nous parlons de santé physique, de santé mentale, nous parlons de bien-être émotionnel. Nous essayons de mettre des mots sur les douleurs que nous passons d'habitude sous silence. Aujourd'hui, nous allons continuer à parler d'endométriose. Encore une fois, j'accueille Nadège Adigou. Elle est présidente de l'association Endométriose et nous. Et elle est elle-même atteinte d'endométriose. Aujourd'hui, elle va continuer à partager son vécu avec nous. Mais cette fois-ci, nous allons parler de la sexualité associée à l'endométriose. Sexualité, maternité, grossesse, endométriose. Nous allons voir comment une personne qui souffre d'endométriose vit sa sexualité, ce que ça signifie pour une endo-girl de tomber enceinte. Et elle a accepté de nous ouvrir son jardin secret. Je lui en suis très reconnaissante. Bonjour Nadège, encore une fois.
Bonjour.
Comment vas-tu?
Ça va bien. Merci. C'est un plaisir de revenir.
Merci de répondre présente encore une fois. Alors aujourd'hui, on va parler de sexualité et d'endométriose. Oui, la société a tendance à porter un regard sévère sur le sujet de la sexualité. Moi, je ne considère pas que c'est tabou, mais bon, on sait comment on est. Alors, j'ai reçu des témoignages de femmes qui, avant les rapports sexuels, les femmes qui ont de l'endométriose, qui doivent avaler des antidouleurs, peut-être mettre des suppositoires, tout ce qui va calmer la douleur avant d'avoir un rapport sexuel. Qu'en est-il de toi?
La sexualité avec l'endométriose, c'est pas un sujet tabou chez moi. De toute façon, s'il n'y a pas de sexualité, il n'y aurait pas de PAP.
Situation de la race,
voilà.
Oui.
Et on n'aurait pas, donc c'est pas tabou, ouais. Mais prendre des médicaments avant, oui, c'est quelque chose qui se prépare en fait. J'ai fini par comprendre que quand tu es une endo-girl et que tu es dans un couple, quand tu ne prends pas à bras le corps, ce côté-là, tu vas pas y arriver. Et il faut d'abord, même avant de parler des rapports sexuels proprement dit, parler à son conjoint. Il faut arriver à en parler avec son conjoint. Et là, à partir du moment où vous allez en parler, ça permet un déclic pour aller vers l'acte sexuel. Et je reconnais que je prenais également des médicaments.
Au passé.
Oui, d'accord. Je prenais des médicaments. Il fallait mettre des ovules. Fallait utiliser des lubrifiants, prendre des antidouleurs. Bon, nous, on avait un code. Et dès que le code apparaît, là, je sais que, bon, tel jour, c'est un code à l'avance, quoi. Ça, c'est, on prépare, c'est un terrain, il faut préparer à l'avance. Donc, c'est 2-3 jours à l'avance, je sais que, ah, tel jour, je suis appelée à la barre.
Ok, bon, je vais revenir légèrement en arrière. Donc, avoir des rapports sexuels avec l'endométriose, est-ce que ça rime avec douleur?
Chez toutes les endo-girls, non. Chez certaines, oui. Chez d'autres, non. Mais chez moi, rapport sexuel égale à douleur, oui. Chez moi, c'était comme ça. C'est comme si on te pénétrait avec un couteau à double tranchant.
Un couteau à double tranchant.
Le couteau entre et sort et toi, tu subis la douleur.
D'accord. C'est horrible.
Mais oui.
Du coup, là, ce que j'ai envie de te demander, c'est comment est-ce que tu peux aller à la rencontre de cette douleur?
Bon, il faut dire que pendant un certain temps, j'étais plutôt du genre à chasser les hommes.
Oui.
Jusqu'à ce qu'on m'opère et qu'on me dise que si je voulais avoir une chance d'avoir un enfant, c'était là maintenant. Donc, il fallait trouver un conjoint. J'étais seule, il fallait trouver un conjoint et tout ça et tout ça. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un conjoint à qui maman a dit, écoute, ma fille, elle est malade. Tu acceptes d'aller avec elle? Il a dit oui. Et on a parlé. Donc, je savais que de toute façon, il fallait que j'aie un enfant.
Donc, ton désir de maternité était si grand, j'ai envie de dire, que tu étais prête à sacrifier, à te sacrifier cette douleur et tout pour pouvoir avoir un enfant.
Évidemment. Évidemment, parce qu'avec l'endométriose, j'ai été en couple une première fois. Et ça a capoté parce qu'il y avait l'incompréhension à cause des douleurs pendant les règles, le fait que je ne voulais plus qu'on me touche à cause des douleurs et l'incompréhension du conjoint également. Donc ça a capoté. Tu ne peux pas. Tu es dans un couple pendant 6 ans, tu ne tombes pas enceinte. Ha.
Oui.
Qui va accepter ça? C'est pas évident. Mais on ne voit pas toujours tout ce qu'il y a autour. Déjà, quand tu acceptes qu'on t'approche, malgré cette douleur-là, et qu'à la fin, ça ne donne rien, à un moment donné, tu es fatiguée, tu n'en veux plus. Mais après mon opération, c'était ma dernière chance, quoi. Donc, j'ai accepté réciter toutes les prières du monde. Non, mais c'était un chemin de croix.
Oui.
Sans se mentir. C'est un véritable parcours du combattant. Tu es là. Tu sais que tu auras mal. Tu essayes de te détendre. Tu acceptes et tu endures. Et tout ce que tu te dis en toi, Seigneur, faites qu'il s'en aille le plus tôt. Seigneur, faites qu'il s'en aille le plus tôt. Et c'est ça, tu te répètes jusqu'à ce que l'acte se termine, qu'il se lève, qu'il parte et que tu restes là dans la douleur encore après l'acte sexuel. Mais tu sais que c'est pour un objectif. Voilà.
Ok. Est-ce que quand tu as commencé à être sexuellement active, est-ce que tu étais préparée à cette possibilité? J'imagine que non, mais je me dois quand même de demander.
Mais non, du tout pas.
Parce qu'à l'époque, tu n'étais pas encore diagnostiquée de l'endométriose. Oui.
J'étais pas préparée à ça. Et il faut dire que la première fois, c'était douloureux, comme je suppose chez tout le monde.
Oui.
Parce qu'on nous dit
là,
que
vraiment,
ça fait mal.
Oui.
Donc, bon, c'était douloureux. Mais après, il y a une certaine douleur qui s'est installée, qui est vraiment différente de la douleur que je supposais. Une douleur à tel point où tu n'as même pas envie qu'on te touche. Alors qu'on nous dit non, les relations sexuelles, c'est censé donner du plaisir, mais toi, c'est tout le temps, c'est la douleur, quoi. Donc là, tu fuis. Donc, j'ai posé la question à maman une fois. J'ai eu le courage de lui demander, mais maman, pourquoi est-ce que ça fait mal? Elle a ri. Elle m'a dit non, que ça ne doit pas faire mal, que c'est certainement dans ma tête.
Dans ta tête?
Oui, que ma douleur, là, elle est dans ma tête. C'est ce que ma maman m'a dit.
Et tu te souviens quand de ce que tu as ressenti quand elle a dit ça? Quelles sont les pensées qui te traversent la tête quand on te dit, voilà, c'est dans ta tête?
Mais oui, on m'a dit c'est dans ma tête parce que ça ne fait pas mal les relations sexuelles. On dit c'est pour le plaisir. Mais moi j'ai mal et j'ai eu le courage de demander. Elle m'a dit non, que ça ne fait pas mal et que c'est dans ma tête. Donc il faudrait que je me remette en question et que j'accepte de me détendre pour pouvoir avoir des rapports sexuels sans douleur.
Oui.
Donc j'ai pris des manuels pour apprendre
à te détendre.
Comment on fait les rapports sexuels?
Ah d'accord.
Ah
c'est aller à l'école.
Justement, je ne m'y connais pas.
Oui.
Et ça fait mal.
Mm-hmm.
Et donc il faut apprendre comment ça se fait.
Mm-hmm.
Il doit avoir quelque chose que moi je ne fais pas
bien,
qui fait que j'ai mal.
Mm-hmm.
Mais malheureusement, j'ai appris et j'ai toujours eu mal.
Mm-hmm.
Ensuite, il a fallu apprendre à se détendre, à accepter, à se dire que ça ne va pas faire mal, que c'est pour se faire du bien. J'ai pratiqué encore, mais j'ai toujours eu mal.
Oui.
Je suis retournée à l'hôpital, j'ai vu le gynéco, j'ai dit, mais docteur, il m'a donné des médicaments, m'a mis sous beaucoup, beaucoup de trucs, mais j'ai toujours eu mal.
Et donc, lui, à l'époque, il a dit que c'était pourquoi les douleurs pendant les rapports sexuels?
Non, il s'est dit que c'était juste des dyspareunies, que j'étais contractée, que j'avais peur et voilà, que peut-être les premières fois ne se sont pas bien passées, c'est pourquoi. Mais toute première fois, c'était pas aussi douloureux que ça. C'était pas douloureux, douloureux au point où, comme cette sensation d'avant, dos avec lequel on te coupe, c'était pas comme ça. C'était des douleurs que tu pouvais quand même supporter. Mais
Donc la douleur a changé au fil du temps. Oui, c'est devenu plus douloureux.
Voilà, la douleur a changé avec le temps. Ce n'était plus cette douleur-là que tu pouvais serrer les dents ou bon, faire passer. Non, c'était plus du tout ça. C'est une douleur inimaginable et il fallait vraiment avoir du courage pour accepter quoi.
Et à l'époque, ne sachant pas que tu avais une endométriose, est-ce que tu as parlé avec ton compagnon? Tu lui as expliqué que tu avais des douleurs et si oui, comment il a réagi?
Je lui ai expliqué parce que à partir du moment où je ne voulais plus qu'il me touche, il y avait un problème. On était en couple. Et voilà, madame ne veut pas que tu le touches. Que tu la touches, pourquoi? Elle a mal. Mais il ne comprend pas. Automatiquement, il a dit que c'est parce que j'avais trouvé mieux dehors, que je voulais plus qu'il me touche à la maison. Oh. Automatiquement, ça a été un reflet chez lui. Et il avait un adage qu'il aimait utiliser. La souris qui a trouvé mieux dehors ne mange plus le fromage qu'elle trouve à la maison.
Eh ben.
Mais oui, ça me fait rire parce que c'est des sujets qui m'ont fait pendant longtemps très mal. Mais là, je préfère en rire. Je préfère ne plus m'apesantir sur ce côté où tu te sens moins que rien. Parce que la femme dans un couple, ce n'est pas seulement faire à manger, mais c'est également avoir des relations sexuelles. C'est être épanouie, c'est être heureuse. Mais je n'étais pas du tout heureuse. J'avais mal, mais je ne pouvais pas le dire. Je demande à n'importe qui, on me dit ce n'est pas normal, il faut que je me détende. J'ai appris à me détendre, ça n'a pas changé. J'ai appris, j'ai cherché des livres de sexualité pour apprendre. Parce que je me dis toujours qu'il y a quelque chose que j'ai raté. Oui. Non? Mais malgré ça, c'était au point où c'était devenu du viol finalement. Puisque je ne voulais pas céder, à un moment donné, me violer. Et même ça, quand j'ai rapporté, on m'a dit, dans un couple, il ne peut pas avoir question de viol.
Oui.
Ça, c'est nos réalités en Afrique. Mais tout ça fait que, quand je suis sortie de cette relation, j'étais vraiment fermée. Oui. Je ne vois pas qui tu es, quoi. Genre, qui tu es, tu vas venir me... Non, attends. J'avais juste envie, j'avais une rage donnée quoi. Je ne voulais même pas qu'on vienne me dire, madame, vous êtes belle.
Je sais que je suis
belle. La façon dont je te regarde là, tu vas même pas aller à la fin de ton compliment parce que j'ai été blessée parce que je souffrais d'une maladie dont je ne connaissais même pas l'existence et que j'ai été incomprise par ceux qui devaient me comprendre. Et j'ai eu la chance là de rencontrer après mon feu mari. Et ça a été une toute autre démarche. Parce que d'abord, quand j'ai quitté cette relation toxique, après j'ai essayé de recommencer. Hein,
j'ai essayé encore.
Mais oui, j'ai essayé. Moi, je voulais, déjà à 20 ans, je voulais un enfant. Je ne savais pas pourquoi, mais dans ma tête, il y avait quelque chose qui me disait, il faut que tu fasses un enfant le plus tôt. Donc, à partir de ce moment-là où ça s'est déclenché dans ma tête, il faut que tu fasses un enfant le plus tôt, je me suis mise en couple.
D'accord. Donc, en fait, le but de ton couple, c'était la finalité, c'était pour avoir un enfant.
Dans ma tête, c'était ça. Moi, je ne me suis pas mise... Je suis quelqu'un d'un peu carré. Quand ça vient dans ma tête et que je sais que c'est une raison valable,
tu te donnes les moyens.
Voilà. Dans ma tête, c'est clair, Nadège, tu dois avoir un enfant le plus tôt. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est ça. Donc, je me suis mise en couple.
Oui.
Je me suis mise en couple. Ça ne venait pas, mais tu sais, 6 ans, je n'ai même pas eu la présence d'esprit de me dire qu'il y avait quelque chose qui ne marchait pas. Tu es avec quelqu'un pendant 6 ans. Les premières années, vous essayez. Tu es quand même assez réceptive. Tu ne tombes pas enceinte. Et ça ne te dit rien. Normalement, tu devrais automatiquement te dire, mais je couche avec quelqu'un sans protection, je dois pouvoir tomber enceinte. Je ne tombe pas enceinte, je n'ai pas de pilule, je ne suis sous aucun traitement pour bloc. Et ça ne m'a rien dit. Parce que dans ma tête, je me disais, tiens, ça viendra, mais je ne savais pas par quel processus.
Oui.
Donc, il a fallu apprendre tout ça. Il a fallu... C'est après que je me suis rendu compte, mais tu avais plusieurs signes qui te montraient que ça n'allait pas. Mmh. Mais tu ne savais pas.
Je ne t'en ai pas rendu compte.
Donc, c'est ça.
Avec ton conjoint, parce que tu as un garçon.
Mais oui.
Dieu merci, tu finis par avoir un enfant. Donc, c'est le désir d'avoir un enfant parce que tu as été diagnostiquée de l'endométriose finalement. Et tu voulais avoir un enfant. C'est ça qui t'a poussé à aller à la quête d'un énième compagnon qui pourrait comprendre ta situation?
Oui. Il faut dire que chaque fois que j'ai essayé de me remettre en couple, c'était juste pour avoir un enfant parce que j'étais fatiguée. Qu'on me harcèle dans ma famille en disant « Même ta Benjamine a tel nombre d'enfants et toi, tu n'en as pas. » C'est parce que tu n'es pas réfléchi. Tu penses qu'à l'école, tu penses qu'aux études, tu penses que... C'est... En fait, c'était toujours dans le but de faire taire tout ça que j'acceptais de me remettre en couple pour avoir un enfant, pour qu'on arrête de me doiter.
Oui.
Mais à chaque fois, c'était galère, quoi. Parce que finalement, on va te dire, on m'a dit, Nadège, tu es très belle, tu es désirable, mais tu es inutile au lit. Tu es en bois, tu es en béton, c'est des choses qui te font mal en tant que femme.
Donc quand... les hommes pensent que tu es frigide.
Bah oui, quand on te voit dehors, quand tu sors, le nombre de personnes qui te courtisent avant que tu ne rentres, mais quand tu rentres et qu'on ne peut pas t'approcher, c'est pas donné à tout le monde de comprendre. Et c'est ça qui m'a permis de comprendre la richesse que j'ai eue avec mon mari. Je ne l'ai pas choisi. C'est lui qui m'a choisi. Il a décidé, malgré tout que je l'ai rejeté, de m'épouser. C'était comme ça. C'était clair dans sa tête à lui. Donc, quand on s'est retrouvés, que déjà, j'avais été violée. Donc, je ne supportais pas qu'il me touche.
D'accord.
Quand il me touchait, je sursautais. Ça n'a pas été facile. D'abord, les premiers mois, j'ai accepté les relations sexuelles parce qu'il me fallait un bébé. Mais à partir du moment où je suis tombée enceinte, que par la grâce de Dieu, en priant dans la douleur, je suis tombée enceinte.
Tu voulais plus.
Ben voilà, je voulais plus.
L'objectif est atteint, donc je ne vais plus passer par cette douleur.
Je ne voulais plus qu'il me touche. Je ne voulais plus. Je ne supportais plus parce que je savais que j'ai souffert pour avoir l'enfant. Et ben voilà, l'enfant est arrivé. Je suis tombée enceinte. La grossesse n'a pas été facile non plus. Mm-hmm. Il y avait les douleurs, donc il ne pouvait pas me toucher de toute façon. Maintenant, j'ai accouché.
On va en venir là. Je voulais savoir quelque chose. Tu avais mentionné le fait que l'orgasme peut être encore un autre problème.
Bah oui.
Est-ce que tu peux m'en dire plus? Parce que déjà, le fait que le rapport sexuel est douloureux, la pénétration est douloureuse, tu arrives à atteindre l'orgasme en dehors de la pénétration et ça fait encore plus mal, finalement, le but ultime, le Saint Graal que tout le monde recherche.
Ouais, mais oui, malheureusement. Malheureusement, parce que ça nous a pris du temps pour nous retrouver, pour être enfin un vrai couple.
Oui.
Et quand on est arrivé à être en couple, réellement, on a cherché les alternatives
oui.
pour pouvoir y arriver. Oui. Et un beau jour, on est arrivé à cette étape-là où il était fier de m'avoir fait jouir.
Ok.
Et je suis restée par terre pendant 3 jours.
Wow.
Parce que le simple fait d'avoir joui, tout ce qui s'est contracté, les mouvements d'abord, et maintenant la contraction, ça a provoqué une crise. Et j'ai eu mal pendant 3 jours. Hé, hey, ma soeur,
j'imagine
tu penses que
tu n'as
c'est...
jamais voulu retenter l'expérience.
Ce n'est pas la peine.
Wow.
Ce n'est vraiment pas la peine.
Wow.
Si je dois avoir les rapports sexuels très douloureux et que finalement j'arrive à jouir et que c'est hyper douloureux. Ah non. Merci, il faut garder votre cadeau.
Je pense à des jeunes femmes qui sont peut-être en train d'écouter ça et qui... elles vont être terrifiées peut-être. Qu'est-ce que tu leur dirais si tu as une jeune femme qui est dans une situation similaire et elle a des douleurs pendant les rapports sexuels, tu lui dirais de faire quoi?
Je lui dirais de ne pas avoir peur. Ça, c'est la première des choses.
Ne pas avoir peur.
Ne pas avoir peur. D'abord, Tu es avec qui comme conjoint? Est-ce qu'il te comprend? S'il te comprend, n'aie pas peur. Prends ton temps. Moi, je prépare mes relations sexuelles 4 à 5 jours à l'avance. Dès que j'ai le signal que là, il a besoin de moi, je commence à me préparer dans ma tête. Je commence à visualiser, à me dire, écoute Nadège, sois zen, tu n'auras pas mal. Et même si tu as mal, ce sera supportable. Écoute Nadège, ça va aller. Écoute, et je, petit à petit, ensuite je mets en place des infusions que je prends, des médicaments pour diminuer la douleur, pour lubrifier et tout ça, jusqu'à arriver au jour J.
Parce que tu as du mal à lubrifier avec l'endométriose.
Oui.
D'accord.
Donc, il faut préparer tout ce terrain-là jusqu'à arriver au jour J. Donc, il ne faut pas avoir peur, non. La peur va faire que tu seras encore plus crispé. Plus tu crispes, plus tu auras mal. Il ne faut pas avoir peur. Juste qu'il faudrait d'abord en discuter avec lui et vous mettez en place tout un processus. Et quand on parle de relations sexuelles, souvent on pense que c'est juste se retrouver et la pénétration. Non, c'est tout un processus. Les câlins, les bisous.
Les préliminaires.
Voilà, il y a. Le préliminaire est bien plus important que la pénétration. Donc, si vous ratez cette étape de préliminaire, madame, tu vas te retrouver encore avec bonjour les douleurs.
Mais finalement, si la jeune fille se dit, je vais suivre ces étapes, je vais faire au mieux, je vais être prête autant que faire se peut, et finalement, je vais avoir un orgasme qui va être douloureux, là, je suis sûre que là, elle est en train de nous écouter, elle se dit, ça n'en vaut pas la peine.
Non, il ne faut pas avoir peur, parce que ce n'est pas chez tout le monde comme ça. Il y a des gens qui ont de l'endométriose, mais qui ont des relations sexuelles sans douleur.
Oui.
Il y a des gens qui ont de l'endométriose, qui ont des douleurs pendant leur relation sexuelle, mais au niveau de l'orgasme, ça marche chez elles. Moi, mon cas, mon endométriose profonde, c'est ce que ça m'a apporté, moi. Mais ça ne voudrait pas dire que c'est généralisé. Il y a des cas, comme ça, il y en a. Je ne suis pas la seule.
Oui.
Mais on n'est pas... Ça ne voudrait pas dire que toutes celles qui ont de l'endométriose auront ça. Je connais des gens qui ont de l'endométriose, mais qui ont pu avoir des relations sexuelles facilement, sans aucun souci. J'en connais qui étaient obligés de boire, de se saouler pour pouvoir supporter la douleur. Donc, c'est pas degré, quoi.
Oui,
et j'en connais qui vont accepter à y aller, mais...
D'accord. Maintenant, la douleur, sur une échelle de 10, tu mets la douleur à combien?
9.
9. C'est beaucoup.
C'est beaucoup. Sincèrement, c'est beaucoup. C'est une douleur qui est là. Surtout, chez moi, c'est déjà dès la pénétration. Et quand le conjoint va et qu'il percute au fond.
Oui.
Ah, là, c'est comme si...
Zones,
c'est comme si tu étais morte, quoi. C'est du genre, tu vas l'envoyer de toutes tes forces avec un bon coup de pied. Mais tu es obligé de supporter. Et il faut aussi apprendre à connaître les positions dans lesquelles tu arrives à supporter, à mieux gérer la douleur. Parce que moi, je suis arrivée avec mon mari à une étape où on a compris que cette position, ce n'est pas pour moi. Je
ne
pouvais pas supporter. Tel autre, moyennement. Tel autre, ça va encore. Donc, il faut apprendre. Quand vous êtes en couple, il faut apprendre maintenant à trouver le consensus, ce qui vous permet de... Moi, j'ai cette habitude de me dire, même si je ne jouis pas, le simple fait d'arriver à le faire jouir,
c'est... Tu prends ça comme une victoire.
C'est plus qu'une victoire, quoi. J'ai une couronne. Parce que déjà, tu es une femme qui n'est pas normale. Et voilà que tu n'arrives même pas à satisfaire ton mari. Il ira voir dehors. Mais quand tu arrives à trouver une option pour qu'il n'aille pas dehors, et que tu arrives à le satisfaire. Je t'assure, je suis telle... Quand on finit là, je suis là. J'ai mal, mais je souris.
Je suis la reine du monde.
Comme si j'avais gagné la Coupe du Monde, justement.
Ok. Ouais, j'avoue que j'ai un peu de mal avec l'idée de cette douleur et du mental qu'il faut pour affronter, aller au-devant de ça. Et finalement, tu es tombée enceinte et tu ne voulais plus qu'il te touche. Comment est-ce que lui, il a compris? Parce que je comprends que ton compagnon, c'était quelqu'un de très compréhensif vis-à-vis Hyper. De ta maladie. Mais pendant la grossesse, il a bien pris le fait que tu ne veuilles pas du tout qu'il te touche.
Pendant la grossesse, il a très bien pris. Puisque j'étais tout le temps à l'hôpital, j'avais une grossesse très difficile. C'était tout le temps un risque de fausse couche, donc il ne pouvait pas me toucher. Ça, il savait qu'il ne pouvait pas me toucher pour pouvoir préserver la grossesse. Maintenant, quand j'ai accouché, il n'était pas là, il était en mission. Elle est revenue. Je ne voulais pas. Donc, pendant un certain temps, chaque fois qu'il voulait, je pinçais le bébé pour qu'il pleure. Je m'en excuse. Il le sait. Il a fini par s'en rendre compte. Au départ, il n'a pas su. Donc, à chaque fois, je pinçais le bébé, il pleurait un peu. Je dis, oh, quoi, elle est folle. Donc, je mettais le bébé là pour me protéger. Mais, heureusement pour moi et pour lui, on s'est assis, on a reparlé. J'ai fini par lui avouer que j'avais été violée et tout ça. Et tous les deux, on a essayé de faire un cheminement l'un vers l'autre. Ça, je ne pouvais pas supporter. Ça, je peux supporter. On a commencé à apprendre. Les relations sexuelles, ça s'apprend. On a appris. Et c'est pour ça que j'aime bien le tempo dit Marie en Évé et Sron. Tu apprends, voilà, tu apprends la personne. Donc, on a essayé de s'apprendre l'un l'autre. Et à partir de là, c'était beaucoup plus facile de se retrouver. On savait qu'on allait étendre nos relations sexuelles sur une semaine. Ça voudrait dire que si c'est vendredi, déjà dès dimanche soir, il y a le signal qui tombe. Et il y a les petits câlins, il y a les petits ceci, les petits cela pour en arriver finalement au but. Donc, voilà.
Le plus gros de ton cheminement sexuel apaisé avec ton compagnon, je veux dire, c'était après ton accouchement, c'est ça?
C'était longtemps après mon accouchement.
C'était longtemps après.
Mon garçon devait avoir 2 ans. 2 ans, ouais.
Quand tu lui as parlé, quand tu as parlé à ton conjoint, finalement, de tout ce que tu as traversé?
Ouais. Okay. Il a toujours eu dans sa tête qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, mais je ne lui ai jamais dit, je ne me suis pas ouverte. À chaque fois qu'il me touchait, que je sussautais, tout ça, il se demandait, il m'a même posé la question de savoir si j'avais été violée. Une fois, je ne lui ai pas répondu. J'ai juste claqué la porte et je suis partie. Mais à partir du moment où tout a été dit, ça a été plus facile. C'est là où l'importance de la communication dans le couple se montre encore une fois. C'est vrai, on n'a pas sauté de joie d'un coup. On n'est pas arrivé à ce stade où j'arrivais à le satisfaire d'un coup. Ça nous a pris du temps. Oui. Ça nous a pris 2 ans pour mettre en place le système. Et malheureusement pour moi, quand on est arrivé à mettre en place ce système-là, il est décédé.
Qu'il repose en paix. Je suis vraiment désolée. J'imagine ce que tu dois ressentir. Ça doit être terrible. Mais quand même, merci parce que tu as croisé la route de quelqu'un comme ça. Au moins, tu sais que c'est possible. C'est possible d'avoir cette chose au sein de ton couple.
Oui, je sais que c'est possible et que si j'ai pu le faire, d'autres pourront le faire également. Et que ça me permet de dire que l'endométriose, la douleur pendant les relations sexuelles ne sera plus forcément la cause de la rupture ou la cause des divorces. Oui. Si ce n'est que ça, on peut toujours mettre en place un processus. Parce que moi, j'ai eu à le faire et je sais ce que c'est. Je sais que ça peut donner.
Oui.
C'est déjà réconfortant.
Par rapport à la grossesse et aux symptômes classiques de l'endométriose que tu avais, diarrhée, vomissement, l'endo-ventre et tout ça, est-ce que... oui, bien sûr, pendant ta grossesse, tu n'avais plus de saignée et tout, mais est-ce qu'il y avait encore certains de ces symptômes? Comment est-ce que les symptômes de la grossesse et tout ça, comment est-ce que ça a été?
Je n'avais plus de saignée, mais j'avais toujours les douleurs, parce que plus lui prenait de la place, plus les lésions étaient serrées, plus il faisait bouger les organes qui n'étaient plus en forme. Donc, quand un bébé donne un coup de pied, que tu devrais être heureuse, moi, il donnait un coup de pied quelque part qui faisait horriblement mal. Mmh. Donc, je me retrouvais avec les mêmes douleurs que quand j'avais des crises d'endométriose. Donc, pendant la grossesse, ça n'a pas été facile pour moi. Il fallait... Mais heureusement, je n'avais pas de vomissements et autres.
Et de diarrhée.
Mais j'avais plutôt un problème de reflux. Okay. Et surtout, ce risque constant de fausse couche. Mm-hmm. Qui est resté là jusqu'à ce que mon bébé ait un prématuré. Mais c'était déjà ça, quoi, qu'on puisse suivre la grossesse jusqu'au bout. Parce qu'il faut dire quelque chose. La femme qui a de l'endométriose, ce n'est pas qu'elle ne tombe pas enceinte. Hein. Elle va tomber enceinte, mais ça ne va pas aller loin. Parce que l'organisme n'est pas favorable. C'est comme si tu mettais un œuf sur le feu et que tu lui dis de d'éclore, d'avoir un poussin. C'est pas possible. Et la fion. Donc c'est la même chose. Tu vas tomber enceinte et tu vas voir, ça va couler. Et parfois on ne s'en rend même pas compte, on ne se rend pas compte que l'endométriose peut être à l'origine de fausses couches comme ça. Donc on est là, on se dit, la dame elle ne tombe pas enceinte, mais alors qu'en réalité elle a eu des grossesses mais qui ne sont même pas allées un peu loin. Voilà. Ça n'a même pas évolué assez loin pour qu'on puisse dire si ou ça. Donc voilà, il faudrait aussi qu'on en parle. Et il faut aussi dire, il faudrait que je rappelle que ce n'est pas que des douleurs l'endométriose. L'endométriose provoque la fertilité. Et c'est dans ce cas, chez celles qui ont de l'endométriose silencieuse, que tu te rends compte qu'en fait, tu avais quelque chose. Tu vois.
Donc tu n'as pas d'autres douleurs, mais c'est que tu n'arrives pas à concevoir.
Voilà, tu n'arrives pas à concevoir. Donc voilà, un tout petit peu.
Oui. Et pour l'accouchement, comment est-ce que ça a été? Parce que souvent, quand on veut se référer aux grandes douleurs, on dit comme les douleurs de l'enfantement. Comment ça a été dans ton cas?
Comme les douleurs de l'enfantement. Ma chérie, les douleurs de l'enfantement ne sont rien à côté de l'endométriose.
Ok.
Il n'y a pas photo, quoi. Parce qu'on nous dit, c'est douloureux. C'est... Moi, j'attendais que ça vienne la douleur de l'enfantement. Donc, j'avais des contractions. Je ne savais pas. Je considérais ça comme des... Par rapport aux douleurs que j'ai pendant mes crises d'endométriose, c'était supportable. Donc, je supportais alors que c'était des contractions.
Donc, en fait, tu étais habituée à des douleurs tellement plus grandes que bien tu n'as même pas réalisé que tu avais
Je ne savais pas. Je ne savais pas. J'avais des contractions. Puisque j'ai perdu les os. Avant, il y a eu la poche s'est percée. Donc, on a dû me mettre sous antibiothérapie, on a dû me garder à l'hôpital pour... On voulait faire évoluer encore un peu le bébé parce que lui donner la chance de grandir un peu plus dans le ventre. Mais c'était plus possible.
C'était combien de mois?
Disons, pratiquement 8 mois.
Ok.
Pratiquement 8 mois. Donc, déjà qu'il était de petite taille, puisque dans le ventre, il n'avait pas de l'espace pour bien se développer, tout ça. Et il y avait également des fibromes dans le ventre avec lui, qui grossissaient avec lui. Il n'était pas la bonne taille, en fait, dans le temps. Mais on ne pouvait plus le garder. Il fallait qu'il sorte. Parce que là, j'avais perdu les os depuis un moment. J'avais des contractions, je ne savais pas. Finalement, le docteur est venu s'asseoir à côté de moi. Il dit, attends, on a déclenché l'accouchement. Tu n'as pas de contraction depuis bientôt 3 jours. Et il est venu s'asseoir là, puis sa chaise, il s'est assis. Et là, il me voit, je tourne, je mets les mains au niveau de mon dos, je fais ça. Il dit, attends, Nadège, tu viens d'avoir une contraction. J'ai dit, non, docteur, ça peut pas être contraction.
Ça, c'est mon état naturel.
Ça, là, c'est support. Tu vois, je te parle, c'est support. Il me dit, non. Ça, c'est des contractions. C'est de ça que je te parle. Au moment où j'ai atteint le niveau de contraction que j'ai pendant mes crises-là, le bébé respirait plus en moi. Et moi-même, là, ils ont dû m'évacuer au bloc.
Donc, tu étais tellement habituée à la douleur, tu n'as même pas réalisé, en fait, que
tu étais en train... Je n'ai pas réalisé. J'attendais les douleurs, les vraies douleurs, parce qu'on nous dit que douleurs de l'accouchement dépassent largement les douleurs des règles douloureuses. C'est ce qu'on nous dit. Donc moi, j'attendais cette douleur-là qui va dépasser le seuil de douleur auquel je suis habituée. Mais c'est pas venu, mais au moment où je suis arrivée au seuil que je ne supportais pas là, On nous a évacués au bloc parce que le bébé ne respirait plus.
Heureusement qu'on a pu le sauver.
Heureusement. Heureusement. Si j'étais à la maison ou si j'étais allée dans, je ne sais pas, un petit cabinet, c'est sûr qu'on nous aurait perdus parce que j'attendais d'avoir des vraies contractions que les autres femmes ont. Alors que je les avais dépassées depuis.
Waouh, c'est terrifiant en fait.
Non, mais il faut se dire, la réalité des choses. C'est pour ça que l'endométriose fait peur. J'avais dit tout à l'heure, j'attendais cette douleur-là, alors qu'elle est passée depuis. Oui. Si c'était d'autres, là, elles ont fini depuis. Mm-hmm. Hein? Toi, tu ne sais pas, c'est le même cas. Quand j'ai des symptômes, des crises d'endométriose qui ressemblent à de l'appendicite.
Oui.
Je me suis retrouvée il y a deux fois à l'hôpital comme ça.
Oui.
Et après, on s'est rendu compte que c'était des crises d'endométriose. Mais dans ce cas-là, tu vas banaliser. Quand j'aurai vraiment l'appendicite, oui, là, je vais dire, oh, ce n'est qu'une crise d'endométriose. Oui. Voilà. Tu vois, c'est là où il faut faire attention. Oui. Nous sommes tellement habitués à un certain seuil de douleur qu'on ne se rend plus compte que ce n'est pas normal.
C'est vraiment terrible, mais je suis contente que tu sois arrivée. Est-ce que là maintenant tu envisages d'avoir d'autres enfants, mais ça voudrait dire un conjoint, un nouveau conjoint, devoir passer par là, expliquer après avoir connu cette relation, on va dire apaisée avec ton mari?
J'en sais rien du tout.
On verra bien.
J'en sais rien du tout parce que c'est tout un parcours, il faut recommencer, il faut faire ci. Sincèrement, j'en sais rien.
Dis-moi, la première fois que tu as parlé de l'endométriose à ton mari, quand tu lui as expliqué que tu avais l'endométriose, comment est-ce qu'il a réagi?
Il a juste souri et il m'a dit, écoute, ce n'est pas si grave que ça. Même si on n'en guérit pas, il n'y a rien que Dieu ne puisse guérir. C'est ce qu'il m'a dit.
Un homme de foi. Un homme de foi. C'est de belles paroles qu'il a dites. D'accord. C'est ton histoire me chamboule en fait. L'histoire me chamboule. Je pense à la sexualité. Je pense à ce que la sexualité représente pour l'être humain. Et de me dire que c'est à ce point douloureux, j'imagine un homme qui rentre peut-être du travail, sa femme est à la maison. Toi, déjà le fait de l'entendre rentrer, tu l'imagines en train de te toucher. Et toi, tu fais une crise de panique. Ben, il y a de quoi, tu fais une crise de panique directe, mais vous avez trouvé un équilibre, vous trouvez le moyen de pouvoir contourner tout ça et vous êtes quand même arrivé à quelque chose. Et aujourd'hui, tu es avec ton garçon, tu m'as dit que parfois tu avais cette douleur où ton petit garçon, il aimerait jouer avec toi, mais tu n'es pas en état de le faire là maintenant. Est-ce que tu peux nous en parler?
Oui, c'est une douleur... Quand tu as de l'endométriose et que tu es maman, c'est ce qu'il y a de plus douloureux. Je me rappelle les premiers mois avec mon bébé. J'ai eu une crise et il est tombé. Je suis tombée avec lui. Après, quand je me suis réveillée, il était sur moi. Et je me suis dit dans ma tête, si c'était l'inverse qui s'était produit, que j'étais tombée, que le bébé était en dessous. C'est des douleurs qu'on est obligé de vivre avec. Il y a des fois où je lui fais à manger, mais il n'y a personne à la maison, j'ai une crise. Il est là, il ne peut pas se servir à manger. Et je suis là par terre, en train de souffrir. Et dans ma tête et dans mon cœur, j'ai mal parce que mon bébé ne peut pas manger alors qu'il y a la... C'est pas qu'il n'y a pas à manger, il y a de la nourriture, mais je ne peux juste pas me déplacer pour lui donner à manger. Et toutes les fois où il vient, il veut sauter, il veut s'amuser, surtout que maintenant que son papa n'est plus là, je suis devenue son principal objet de jeu. Et malheureusement, il donne un coup et tu as mal.
Oui.
Tu te recroques vite, tu dis... Écoute, maman a mal. Et il y a des fois, même quand lui-même il te voit, il te dit, maman, tu as mal. Ça te fait mal,
oui,
quoi.
Oui.
Tu as une déchirure dans ton cœur parce que tu aurais aimé être une maman comme toutes les autres.
Oui.
Le prendre, l'amener, s'amuser. C'était les congés.
Oui,
il n'y a pas longtemps. Mais je n'ai même pas pu sortir avec lui. Et là, tu as encore plus mal.
Oui.
Tu t'en veux. Mais après, tu te rappelles que ce n'est pas de ta faute. Et qu'il va accepter toutes les petites fois où tu pourras jouer avec lui. Oui. J'essaie de le faire. Et bon, voilà, on essaie, même si c'est douloureux. On essaie d'avancer. C'est en ces moments-là que tu te rends compte que c'est compliqué d'être seule avec un enfant avec de l'endométriose. Là, tu ressens le manque de l'absence de ton conjoint. Oui. C'est là où tu te dis, eh merde, j'aurais bien voulu lui donner un coup de pied dans sa tombe.
Sérieusement. Merci Nadège, merci pour ton témoignage. Merci à tous d'avoir suivi ce numéro. Si vous l'avez apprécié, partagez avec vos proches, partagez avec les personnes qui vous sont chères pour les sensibiliser sur le sujet de l'endométriose, parce qu'il y a ces douleurs qu'on passe sous silence. Ce que la femme atteinte de l'endométriose traverse pendant les rapports sexuels et tout, il faut en parler. Il faut en parler pour que les gens ne se sentent pas mal ou sous le coup d'un sortilège. Qu'est-ce que j'en sais, moi? Partagez autour de vous. Retrouvez-moi les premiers et les derniers jeudis du mois à partir de 10h sur la radio Jenna pour que nous puissions ensemble parler de ces mots qu'on a l'habitude de passer sous silence. Et si vous voulez passer dans les mots comptés pour partager votre histoire, contactez-nous sur le +228 90 13 89 94. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin de votre santé, soyons égoïstes, prenons soin de nous-mêmes, prenons du temps pour nous-mêmes. Je suis Délivrance T et je vous dis à très vite.